Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Alors, nous sommes au téléphone avec Jean-Philippe Guillois. Bonjour, Jean-Philippe Guillois.
Bonjour.
Bonjour. Et vous êtes donc. Vous êtes metteur en scène assistant, mais là, vous êtes le metteur en scène tout court de cette production de Falstaff qui a été maudite pendant quelques années, mais ça y est, qui est enfin donnée à Montpellier. Alors. Comment vous avez abordé ce travail en reprenant cette mise en scène? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Est-ce que c'est difficile de reprendre comme ça une mise en scène qui a été construite par un autre, même si vous y avez participé?
Oui, tout à fait. Alors, moi, je travaille depuis longtemps avec David Herman, qui est le metteur en scène qui a créé ce spectacle. Donc on a depuis maintenant 10 ans beaucoup collaboré ensemble, ce qui fait que voilà, reprendre un de ces spectacles est pas vraiment compliqué pour moi, vu que c'est un spectacle qu'on a vraiment créé ensemble, qu'on a donc essayé de faire 2 fois déjà, donc c'est la troisième. Et voilà, comme je connais très bien l'univers et les intentions de David Herman, voilà, je me sens parfaitement dans sa lignée pour remonter ce travail.
Alors, j'assistais à un petit extrait de répétition, hein, court, mais tout à fait intéressant, l'autre jour. Je voyais qu'il y avait, vous étiez en grande conversation, notamment avec le quatuor féminin, puisque c'était, vous répétiez plutôt la scène où on voit apparaître, en fait, le public fait connaissance avec ce quatuor. Et vous aviez une grande discussion avec ce quatuor, qui a à la fois ses individualités, mais qui est un vrai quatuor quoi, en même temps. Alors que comment vous gérez cela? J'ai dit un petit peu, il y avait un travail sur la gestuelle qui paraissait très important quand je vous voyais avec vos explications.
Oui, tout à fait. En fait, cet opéra de Verdi, il y a beaucoup d'ensembles, que ce soit féminin ou masculin. Et des ensembles où il y a beaucoup de textes et beaucoup de textes différents. Et tout ça superposé, musicalement, c'est très très beau, mais au niveau théâtral, des fois, on peut s'y perdre. Donc, j'essaie de leur donner vraiment beaucoup de précisions sur les adresses, à qui elles disent quels mots et surtout pourquoi. Et de leur donner justement avec le corps, avec le regard, avec des intentions dramaturgiques, une lecture qui soit le plus visible possible pour le public. Surtout quand on a, voilà, dans cette lecture de David Herman, on a un peu des sous-textes qui sont très importants. Donc, voilà, je leur demandais d'être vraiment précise. Et alors, bien sûr, elles doivent être concentrées sur la qualité du chant, mais je leur demandais de ne pas oublier la qualité théâtrale, qui est vraiment très, très importante pour cette pièce de Verdi. Et on a de la chance d'avoir un chef d'orchestre qui est très attentif aussi à ça. C'est-à-dire pas seulement à la qualité de la note, à la qualité du chant, mais à la qualité de l'interprétation théâtrale.
Mmh. Oui, d'ailleurs, peu de temps après, c'est Michael Schoenwand qui s'adressait au même quatuor pour leur donner des indications purement musicales, évidemment, j'imagine. Alors, en même temps, le Falstaff que vous proposez n'est pas un Falstaff classique, si je puis dire, avec Bruno Taddia que nous avons rencontré. On échangeait, et c'est notamment la comparaison avec le rôle de Don Giovanni, qu'il a aussi chanté. Et votre Falstaff, ben, ce n'est pas le Falstaff qu'on a l'habitude de voir sur scène.
Oui, tout à fait. La vision de David Herman se voulait un petit peu différente pour cette interprétation que l'on va présenter à Montpellier. Habituellement, en deux mots, le Falstaff est quelqu'un d'un peu ventripotent, d'un peu repoussant, qui tente de séduire les femmes à des fins quelque peu crapuleuses. Dans cette version-là, on a un Falstaff effectivement qui a un peu des notes de Don Giovanni, qui est en fait un vrai séducteur, quelqu'un qui est véritablement érudit, qui est plutôt séduisant et qui va en fait provoquer un mini-séisme chez ces personnages féminins qui sont installés dans une vie un peu luxueuse. On le voit dans cette belle villa, dans des mariages où en fait elles ont besoin peut-être de se mettre un petit peu en danger et puis d'expérimenter, de tester quelques limites. Et donc quand elles vont recevoir ces lettres de Falstaff au tout début de l'opéra, eh ben elles vont être tentées de de vivre une expérience un peu différente. Et donc, c'est tout le challenge de cette mise en scène, c'est d'arriver malgré le texte original qui est plutôt, on va donner une leçon à Falstaff, on va lui, voilà, on va lui dire que c'est pas bien de séduire, hein, de séduire des gens à ces fins-là. Et ben en fait, elles vont essayer au contraire de se cacher de leur mari pour vivre quelque chose, tenter de vivre quelque chose avec avec Falstaff.
Mmh. Alors, en même temps, je me disais, ça me semblait un peu osé, parce que le texte lui-même qui est chanté fait souvent référence à l'aspect de Falstaff, et Bruno Tadion ne sera pas dans cet aspect-là. Les références au poids de Falstaff et ainsi de suite sont très fréquentes dans le texte. Comment vous en débrouillez de ça? Vous le prenez comme métaphore simplement, ou c'est pas apparu gênant au travail?
Non, alors ça c'est vrai que d'une manière plus générale, dans beaucoup d'œuvres lyriques, très souvent voilà, il y a le texte par exemple qui va parler d'une arme, d'un pistolet, et puis le metteur en scène va choisir en fait d'avoir un sabre. Voilà, c'est quelque chose maintenant qui est, je pense, rentré dans les mœurs, que il y a un livret, mais que par rapport à des choix de mise en scène, voilà, on peut avoir une autre lecture, et que du coup, même si voilà, dans le texte on fait référence à ce Falstaff qui est censé être comme ci, comme ça, et bah voilà, le spectateur découvre qu'en fait on a fait cette autre lecture, et on relègue certaines parties du texte un peu au second plan pour l'interpréter différemment sur scène et avoir cet autre niveau de lecture. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui est devenu maintenant assez commun, et qui parfois peut être reproché en disant qu'on n'est pas assez fidèle au texte. Mais moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est finalement d'arriver à se détacher un petit peu du texte pour provoquer et amener des choses différentes dans les livrets originaux. Et c'est là où justement toute la théâtralité va être importante pour essayer de reléguer ce texte au second plan.
Alors, c'est une musique en même temps, j'ai envie de dire, ça enchaîne, hein. Il n'y a jamais de chanteur qui s'arrête pour un grand air, tout va très vite, les voix se superposent. Est-ce que ça vous amène à des dispositifs, sur la mise en scène, des dispositifs un petit peu particuliers pour donner un peu plus de lisibilité au texte? Parce que quand on écoute, ça va de partout et à toute vitesse, quoi.
Oui, bah justement, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup d'aria dans cette œuvre, mais c'est justement, on en revient à cette théâtralité, à cette précision du geste scénique, pour que justement chaque phrase puisse trouver résonance. Et si on n'a pas cette précision, bah ça devient un capharnaüm scénique et on n'arrive plus du tout à suivre. Donc le travail, en fait, c'est d'arriver à isoler par un geste précis, justement, chaque texte de chaque personnage, et donc de créer une mise en scène qui soit bien sûr vivante, mais qui soit précise pour que le texte soit direct et que l'information puisse passer au plus précis.
Alors, pour le choix de décor, si on peut en parler un tout petit peu, il y a quelque chose qui simplifiait, parce qu'on est dans une unité de lieu, dans ce qu'on appelle une unité de lieu, il me semble. Donc, mais quel décor vous avez, comment a été conçu le décor? Parce qu'il est assez impressionnant, mais en même temps, il a un côté très, très sobre, presque brut, parce qu'on a beaucoup de structures en bois. Je voyais, c'est des panneaux USB qui sont pas peints, il n'y a pas de moulure, enfin, c'est brut, quoi, un petit peu.
Oui, alors tout à fait. Donc, le décor de Yoshram, en fait, n'est pas unique parce qu'il tourne. Donc, on a un côté où c'est l'univers dans lequel Falstaff évolue, qui est une cité. Donc, il y a des balcons, au pied, il y a un kebab. Et ça, c'est l'univers de Falstaff, Pistola, Bardolfo. Et de l'autre côté, on est dans l'univers des Ford. Donc, on est dans la maison d'Alice Ford et de Monsieur Ford, qui est donc voilà cette villa un peu luxueuse. Le choix du matériel OSB, en fait, c'était d'avoir quelque chose de finalement qui soit reconnaissable, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on est dans une cité, on reconnaît qu'on est dans une très belle villa, mais en même temps, ça reste un petit peu abstrait parce que elle n'est pas colorée. Et c'est ce qui permet et on en revient à ce qu'on disait avant, de mettre justement en lumière les personnages qui ont des costumes très colorés. Et du coup, voilà, on met vraiment l'accent sur les caractères et le décor devient finalement un vrai deuxième plan. Et il y a un moment, mais ça c'est surprise pour les spectateurs, où le décor va complètement s'illuminer d'une façon très très différente et spectaculaire. Et ça n'intervient justement qu'à un moment pour un motif dramaturgique précis que les spectateurs découvriront.
D'accord, donc on ne va pas révéler la surprise, on va laisser les spectateurs découvrir. Il y a beaucoup de personnages, quand même, pour cet opéra. Est-ce qu'il y a des personnages secondaires qu'on oublie un petit peu et que vous souhaitez mettre en avant plus dans la mise en scène? Je pense à Bardolph ou Pistole, qui sont des rôles un peu secondaires, mais est-ce que vous pouvez rétablir un équilibre entre les différents rôles? Encore qu'il n'y a pas d'énormément d'inégalité entre les personnages dans le volume de chant.
Oui, alors dans le travail de mise en scène, on a accordé de l'importance à chaque personnage. Il n'y en a pas un qui a été laissé de côté. Bardolfo et Pistola sont des partenaires de jeu très très intéressants et très importants pour Falstaff. Aussi parce que voilà, ils ont dans leur développement, on voit, ce sont des petits bandits ou voleurs peut-être qui vivent dans cette cité, mais en même temps un code d'honneur. Et puis c'est eux qui vont déclencher en fait la visite de Ford, enfin qui vont aller chez Ford, et du coup Ford va jouer ce rôle et va lui venir rendre visite à Falstaff pour découvrir ses plans un peu machiavéliques. Donc malgré que ce soit des petits personnages, ce sont des vrais déclencheurs dans l'histoire. Donc du coup on y a accordé beaucoup d'importance. Tout comme voilà, Nanetta et Fenton, qui peuvent paraître un petit peu en dehors, mais qui en fait, eux, sont sur toute une autre lignée en termes de relations amoureuses et qui donnent un contrepoids à ce qui se passe entre Falstaff et les dames, qui est aussi très très intéressant. Donc vraiment, tous les personnages ont vraiment leur importance dans cette œuvre.
Alors, on va laisser les auditeurs découvrir cette mise en scène qui s'est fait beaucoup attendre. Merci Jean-Philippe Guillois et puis bonne fin de travail et bon spectacle.
Merci beaucoup, merci, au revoir.